Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est ça, et ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Bonjour à l'équipe en régie. Et merci d'être là avec moi. Aujourd'hui, j'accueille un artiste avec lequel Line-Up collabore depuis longtemps et à de nombreuses occasions. Je ne vais pas t'appeler Polar, puisque du coup, tu as repris ton nom civil et je n'ai pas envie d'écorcher ton nom de famille. Ouais. Olivier Kennybrew.
Olivier Kennybrew.
Kennybrew. Wow. Ça en jette. Tout de suite, ça en jette. Eh bien, bienvenue au micro Terrain Vague. Merci.
Merci pour de m'accueillir.
comme je le fais avec chaque artiste, j'ai toujours envie d'en savoir plus sur le parcours et sur comment tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Donc, on va revenir là-dessus un petit peu. Hein, ta jeunesse et la genèse, et l'évolution de ton univers, parce que je sais que ça a beaucoup changé depuis tes débuts. Et puis on aura un petit intermède musical et on continuera notre discussion par la suite. Raconte-moi un petit peu d'où tu viens et quel est ton parcours vraiment dans ta jeunesse avant d'être artiste. Peut-être, je sais pas si tu t'es lancé tout de suite ou...
J'ai grandi à Montpellier. Ouais. Je suis né donc ici, pas très loin d'ailleurs de ce studio.
Ouais.
Et je viens d'une famille franco-américaine, donc française du côté de ma mère qui vient d'Alès, et des États-Unis, Washington DC, du côté de mon père.
Okay.
Et au final, ils ont constitué la famille ici en France. Mm-hmm. Et je viens quand même d'une famille, on va dire, classe modeste, mais qui a toujours été tourné vers la culture, vers l'art. Mon père était à la base chorégraphe de danse.
Oh.
Ma mère, beaucoup dans la littérature, prof d'anglais, tout ça.
Okay.
Donc, en fait, j'ai eu une vision du monde de l'art, et même du monde artistique, déjà très jeune.
Très
parce
tôt,
que
quoi.
Très tôt, parce que au final, quand je partais en vacances, quand j'étais jeune... Les deux points essentiels qu'on faisait, c'était visiter le musée de la ville, aller à l'église. Et c'était un peu, ça tournait beaucoup autour. Et après, on visitait les villes et tout ça. Mais il y avait vraiment cette culture-là qui était importante.
Donc très tôt déjà, tu avais un pied dedans.
Ouais. Et même du côté de ma mère, ils sont très... c'est que des profs presque. Donc profs d'art plastique, profs d'histoire géo, profs... Enfin voilà. Donc en fait, il y avait vraiment cet attrait-là pour la culture, la musique, la peinture. Donc au final, moi, j'étais pas obligatoirement un bon élève jeune. J'étais un peu plus rebelle, on va dire. J'étais un peu têtu.
Têtu.
Voilà.
Et rebelle, j'aurais pas dit.
Ouais,
têtu à la limite.
Ouais.
Mais rebelle, j'aurais pas dit.
Rebelle, oui, parce qu'en fait, je sortais des conditions.
Modèle classique.
Du modèle classique, du modèle, voilà, par rapport à mes cousins, mes cousines. J'étais, au final, par rapport à d'autres, j'étais peut-être pas rebelle, mais par rapport aux conditions dans lesquelles je sortais un peu du cadre. Voilà, c'est un peu ça, exactement.
Et toi aussi, tu dessinais.
Et j'ai toujours dessiné, fait plein de gribouillis comme beaucoup. Et c'est beaucoup plus tard que... C'est vers le collège, en fait. Donc, je pense qu'il y avait cette envie où je dessinais déjà de plus en plus pendant les cours. Ça m'aidait beaucoup à me concentrer déjà pendant les classes.
Okay.
Parce qu'au final, j'avais un peu du mal à rester concentré face à un professeur. Et cette envie un peu de rébellion, cette envie un peu d'aller d'un peu de se confronter un peu aux autres et même de se confronter à soi-même un peu.
Est-ce que c'est parce qu'il y avait autant de profs dans ta famille que du coup t'as voulu prendre la tangente?
Bah, peut-être un peu, parce qu'au final, moi je voyais tous mes cousins, toutes mes cousines, c'était des bons élèves et tout marchait bien pour eux. Moi j'étais un peu le vilain petit canard, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc,
et fils unique?
Non, pas fils unique, j'ai une grande sœur.
Ok, d'accord.
Mais petit dernier, du coup, bon, on est deux, donc c'est pareil.
Oui, oui, bon.
Voilà.
Mais du coup, bon, vilain petit canard quand même.
Voilà, mais. Et du coup, j'ai rencontré au collège un groupe de personnes qui, eux, graffaient déjà. Depuis, moi, je les ai rencontrés en étant en quatrième et eux, ils graffaient depuis la sixième.
Ah ouais
et,
ah oui, déjà 10-11 ans, ça commençait voilà. à taper des graffitis, quoi, purée.
Et donc, du coup, moi, ça m'a beaucoup intéressé un peu cette idée, au final, de peindre en même temps des grandes surfaces et en même temps d'être un côté un peu hors la loi, aller peindre dans la rue, parce qu'ils peignaient essentiellement dans la rue. Et du coup, ça m'a beaucoup plu.
Donc, c'est
et
par donc, là que tu as commencé.
Et donc, voilà, en fait, j'ai peint déjà des grandes surfaces sans savoir peindre, en fait. C'est-à-dire qu'au final, je dessinais sur des papiers, mais au final, ma première approche à la peinture a été à travers des bombes de peinture. Et au final, j'allais m'attaquer à des grandes surfaces sur des murs, beaucoup dans le Verdançon.
Ouais.
Mais au final, je n'avais aucune technique, aucun savoir-faire. Donc, au final, j'apprenais. En fait, j'appris directement en peignant sur les murs.
Sur le tas, quoi. Voilà, et exactement. Du coup, tu étais déjà dans le lettrage, puisque c'était graffiti.
Ouais, bah, au début, j'étais plus dans les personnages. Comme beaucoup d'enfants, on se raconte des petites histoires. Et après, oui, le graffiti, du coup, c'est à travers... il fallait trouver un pseudo. Il y avait en même temps le hip-hop en parallèle. Donc, il y avait tout ce qui était la chanson, le break. Il y avait le magazine Radical qui était pas mal important. C'était un magazine qui mélangeait toute la scène hip-hop française et même mondiale. Et donc, il y avait les pages sur les rappeurs, les pages sur les breakdancers et les pages sur les graffeurs.
Ouais,
et
toutes les disciplines urbaines.
Ouais, voilà. Et moi, j'écoutais beaucoup de rap déjà à l'époque. Donc, en fait, pour moi, ça, j'appartenais à un mouvement, quoi.
Ok.
À travers, au final, le graffiti.
Ok. Et du coup, pardon, cette pratique du graffiti, tu as continué, continué là-dedans ?
Oui, j'ai continué là-dedans parce qu'au final, ça m'a bien plu d'aller peindre dans la rue, trouver une bande de potes, trouver même... le monde des graffeurs, c'est-à-dire quand t'es jeune, c'est assez marrant parce qu'au final, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à créer un groupe, on est plein.
Il y a
un peu de rivalité, il y a un peu de compétition et du coup, c'est...
ce sentiment d'appartenance aussi hyper important quand t'es ado, quoi.
Oui, c'est ça,
c'est bien de pas être solo dans son coin et de savoir qu'il y en a d'autres comme toi et d'avoir le groupe.
C'est ça, on appartient à un ensemble, on appartient... Et comme je mentionnais ce magazine Radical, on voyait des peintres du monde entier dans ce magazine-là. Et c'était superbe. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres communautés dans le monde entier
qui faisaient la même chose.
Qui faisaient la même chose, quoi.
C'est marrant. Je te vois pas forcément tout de suite comme un mec qui va aller au Verdançon pour taper un graffiti.
Ouais, bah si, au final. J'ai toujours fait plein de conneries quand j'étais jeune. Et pour moi, c'était juste une de plus au départ.
Oui, bah oui, voilà. Un peu plus, un peu moins.
Voilà, exactement, quoi.
Et de là, la suite, ça a été quoi? Enfin, donc toi, tu pratiquais le graffiti sur ton temps libre?
Ouais, voilà.
Bah, tu séchais les cours?
Je séchais pas trop les cours, non, ça va. J'étais pas obligatoirement un bon élève, mais j'étais, voilà.
Ça va.
Tant qu'on me laissait tranquille, ça allait.
Ouais, voilà.
Voilà. Donc non, je faisais ça surtout les week-ends. Donc quand j'étais jeune, je faisais pas mal de sport. Puis après, du coup, quand j'ai rencontré ce groupe de potes, j'ai commencé à arrêter de faire du sport et vraiment à me consacrer mon temps vraiment à sortir avec les copains, graffer. C'est ça, quoi. Donc c'était un peu l'essentiel de mon temps.
Normal, ton temps a tourné autour de ça.
Exactement.
Et comment de là, enfin je sais pas, après t'as été ado, t'es allé au lycée ou pas, je sais pas. Et ça s'est transformé après?
J'ai fait un lycée agricole, donc bon, ça n'a pas...
Ah ouais?
Ouais, donc c'est... En fait, je voulais rentrer dans un
jamais
lycée...
Jamais là où on l'attend, hein.
Je voulais rentrer dans un lycée avec option art plastique, mais bon, il fallait quand même des bons résultats à l'école pour rentrer dans cette section-là. Voilà, un bon dossier. Moi, je n'en avais pas spécialement un, donc du coup, j'ai pris un peu les gens qui m'acceptaient.
Ouais, là où on voulait bien de
voilà,
toi.
et au final, il y avait un peu cette idée à travers un lycée agricole, c'était pour enseigner du coup le paysagisme, il y avait l'art des jardins. Donc il y avait aussi cette notion de création à travers notre au final dans le paysage, quoi.
C'était pas le même médium, voilà, mais exactement. C'était resté de la création, quoi.
Exactement.
Okay.
Et donc, pour moi, c'était a toujours été important de travailler avec ses mains, de créer, de penser aussi. Et donc en fait, ça m'a amené là-dedans. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années, donc j'ai fait mes études C'était à l'époque un BEP, bac pro. Ouais. Puis après, j'ai voulu arrêter, faire une petite pause dans mes études. Donc, j'ai travaillé là-dedans pendant plusieurs années. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai voulu reprendre mes études. Et là, à ce moment-là, j'ai intégré l'ESMA à Montpellier.
D'accord.
Et donc, c'est une école qui englobe donc photographie, graphisme 3D, design, plein de choses.
Ça, ouais.
Et moi, j'ai pris l'option communication visuelle,
okay.
Donc graphisme.
Ouais.
Et donc, à partir de là, il y a eu aussi... ce qui était intéressant, c'était une sorte de mise à niveau en art appliqué avant même d'intégrer du coup, yes. le BTS. Mm-hmm. Et en fait, on a été ouvert à l'histoire de l'art, à travailler, on a eu des cours de nu, on a eu en fait énormément de notions artistiques.
De base.
Et de base, en fait, une structure,
ouais.
Des lectures.
Ouais.
Donc c'était vraiment, là je me suis vraiment ouvert au monde de l'art.
Okay.
C'était pas comme les beaux-arts, c'est encore différent,
ouais,
mais il y avait
sûr.
Quand même une certaine approche du monde de l'art qui était intéressante.
Okay.
Et on est parti à la Biennale de Venise, avec l'école on partait là-bas, c'était okay. vraiment intéressant.
Voilà, tu devais vraiment être dans ton...
Ouais, là j'étais
dans ton univers, quoi, après.
Ouais, pour moi, là, c'était vraiment intéressant.
Et en parallèle, en parallèle de tes études, tu continuais à dessiner,
ouais.
à développer quelque chose.
Toujours, en parallèle, je ne développais pas exactement grand-chose pour en faire un métier.
Mais tu pratiquais quoi?
Je pratiquais toujours,
okay.
j'étais toujours... en train de graffer avec mes amis.
Ok. Ah ouais, donc ça fait. Enfin, le graffiti a occupé quand même
ouais.
une partie de ta vie assez, assez importante,
oui,
finalement.
Oui, une grande partie de ma vie. Ouais.
Ok. Bon,
une grande partie du début de ma vie.
Ouais.
Voilà. Mais du coup, le fait d'intégrer cette école, en fait, m'a aussi ouvert un peu plus l'esprit vers
ouais.
Une autre forme d'art, une manière de penser et qui était. Parce qu'au final. Le milieu du graffiti, des fois, il est un peu fermé aussi.
Bah, j'ai envie de dire un peu comme n'importe quel milieu.
Oui.
En fait, bon, après, t'en fais un peu le tour aussi.
Oui.
C'est un peu les mêmes personnes que tu vois.
Exactement.
Il n'y a pas forcément une évolution. Enfin, il faut que tu t'en extirpes pour pouvoir évoluer toi-même. Donc,
ouais.
Et donc, après l'ESMA, toi, t'envisageais de bosser en mode design graphique ou quoi ou enfin
non
ou tu le voyais presque comme un tremplin
En fait, je pensais parce qu'en fait déjà quand j'étais à l'ESMA, donc j'avais commencé à développer une forme un peu plus, c'est-à-dire j'étais un peu sorti du graffiti,
mm-hmm.
j'avais créé un petit personnage que je commençais à peindre dans la ville,
okay.
et quand j'étais à l'école, en fait, il y avait déjà des gens qui m'avaient contacté pour pouvoir acheter des œuvres,
okay.
j'avais commencé à travailler avec des marques. Et donc, il y avait vraiment déjà cette notion-là où je me suis dit, en fait, je peux, en fait, sans le vouloir,
ouais, ouais.
je peux
éventuellement
vivre de ma peinture.
Ok.
Donc, c'est rentré dans ma tête, c'est une petite graine qui était comme ça de côté.
Ah, ouais.
J'ai fini mes études. Après, moi, je suis assez indépendant, donc du coup, je ne me voyais pas trop travailler dans une boîte de graphisme.
Ouais.
C'était pas trop mon truc. Donc, j'ai plus un peu commencé à développer ce côté artistique.
Okay.
J'ai travaillé pour un artiste en tant qu'assistant, donc ça m'a permis aussi de m'aider, d'accélérer dans ma pratique artistique,
mm-hmm.
de développer la sculpture,
ouais, ouais.
De comprendre un peu mieux le rapport des artistes avec les galeries et plein de choses
okay.
comme ça.
Ouais, vraiment l'envers du décor,
ouais, voilà.
et les techniques aussi, j'imagine,
exactement.
Les matériaux, etc. Mmh. Ok, ça a dû être super formateur.
Ouais, non, c'était super formateur, j'ai gagné beaucoup de temps, je pense, dans ma pratique grâce
ouais.
à ça. Et mais je n'étais pas pressé non plus. J'aime bien prendre mon temps souvent. Quoi. et après, je suis même parti faire avec ma compagne une sorte de tour du monde.
Oui, on va y venir. Mais comme on arrive déjà à la moitié de l'épisode,
ouais,
on va faire une pause musicale. Et on va écouter le morceau Spooky de Dusty Springfield, Oldie But Goodie.
Some plans for tonight, and then I stop and say, all right, love is kind of crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a girl looks at you, it's for sure.
Avec Olivier, on allait parler de ce tour du monde. Alors, j'ai 15 000 questions, donc on va essayer de faire vite. Oui. Donc, tu pars
oui.
avec ta compagne.
Je pars avec ma compagne okay. à la base pour un an.
Ok.
Et ça se transforme en un peu plus de deux ans.
Ah ouais.
Un voyage, oui. Donc,
purée.
Ça a évolué.
Mais vous, et ça me fait penser à une question autre, mais comment font les gens pour vivre quand ils partent en tour du monde comme ça? Tu fais quoi? Comment tu finances ton tour du monde qui devient en plus deux ans?
Oui, bah en fait, à la base, on avait économisé pour un an okay. de vie sans avoir à travailler. Okay. On avait travaillé énormément avant.
Ouais, ouais.
Et donc, on a réussi à financer en fait que 6 mois.
Ok. ouais,
et
okay.
voilà, parce qu'on était beaucoup en Amérique du Sud, donc c'était assez, au niveau des prix, c'était pas si cher que ça. Après, okay. on avait quand même un budget assez serré par jour.
Ouais.
Et ensuite, on est parti en Nouvelle-Zélande, puis en Australie.
Oh, là, c'est plus
et
cher.
Là, c'est beaucoup plus cher. Mmh. Et du coup, il a fallu travailler en fait à nouveau.
Okay.
Donc, du coup, pendant ce voyage-là, on a travaillé à chaque fois, peut-être 6 mois en tout, comme ça. Mais du coup, on rencontre des gens,
forcément.
L'expérience, c'est super.
Et du coup, tu fais des fresques un peu partout. Comme ouais. je disais hors antenne, j'ai regardé le livre chez Philippe, donc à la galerie Haddan, qui retrace un petit peu ce parcours-là que tu as eu et toutes les fresques que tu as réalisées à travers le monde.
Oui, oui, oui. Il y avait vraiment cette volonté-là de... quand je... même elle y est toujours un peu, quand je visite un pays, il faut que je réalise une fresque, une œuvre dans ce pays.
Que tu laisses une...
que je laisse une trace, qui peut être éphémère ou pas, je ne sais pas. Mm-hmm. Mais en tout cas, au moins visuel pour moi, une photo, un moment. Et d'ailleurs, même ma compagne, elle m'aide beaucoup, elle peint beaucoup avec moi.
D'accord.
C'est-à-dire que des fois, au lieu peut-être de juste visiter la ville, elle dit, bah, vas-y, je t'accompagne dans ta fresque.
Trop
et
bien.
Et puis, on peint à deux.
Très bonne assistante, j'imagine.
Très bonne assistante, ouais.
aujourd'hui, tu réalises des fresques monumentales, parce que tu fais quand même des beaux volumes, mais tu fais des fresques au sol aussi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce rapport au muralisme et à ces grands formats, quand on sait que tu travailles aussi en atelier sur des formats plus standards? Ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça t'apporte pour le coup?
Ouais. Ben, c'est vrai que les grands formats, grâce au final au graffiti, j'ai tout de suite peint des grandes surfaces. Donc mm-hmm. en fait, j'ai jamais eu de problème par rapport à tout ça. Et au final, même au contraire, plus c'est grand un peu dans la peinture, plus notre fresque est grande, plus elle est vue, mieux
ouais.
c'est pour nous.
Ah bah oui, complètement.
Et moi, du coup, mon approche maintenant, je suis totalement sorti du graffiti,
mm-hmm.
et mon approche par rapport à la peinture... c'est un rapport aussi à l'environnement, à l'architecture, parce que moi je travaille beaucoup en fait des formes très graphiques. De temps en temps j'ajoute du végétal,
mm-hmm.
mais en fait j'essaye vraiment d'implanter en fait mon œuvre dans l'espace, parce qu'au mm-hmm. final moi je vais réaliser une œuvre dans un espace, je vais peindre un sol, une fresque ou je ne sais quoi,
ouais.
et en fait moi je pendant une semaine, deux semaines je peins cette œuvre là. Et au final, après, elle appartient aux autres. Elle appartient aux gens qui vont vivre avec cette œuvre-là
ouais, ouais.
tous les jours. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'implanter, de comprendre aussi le lieu dans lequel je vais mm-hmm. Réaliser cette fresque. et vraiment qu'elle appartienne aux gens qui...
Et que ça se marie bien, j'imagine, avec...
Et que ça se marie très bien, et en même temps, voilà, qu'il y a un dialogue avec l'architecture du bâtiment ou l'architecture environnante.
Ok.
C'est vraiment important pour moi.
D'être en cohérence totale avec l'environnement.
Parce qu'en fait, on vient déjà, des fois, imposer une image
complètement
aux gens.
Ouais, ouais.
Et donc, en fait, autant en fait, travailler avec les gens, travailler avec les villes, travailler avec...
Comme tu dis, c'est eux qui vont vivre avec après, au quotidien. Ouais. Toi, une fois qu'elle est réalisée, tu rentres chez toi.
Exactement.
Mais c'est eux qui vont la voir tous les jours. Donc, effectivement, vous mieux travailler avec pour que ce soit compris et accepté plus facilement. Quoi. Tu travailles aussi sur du volume. Sur des œuvres. Alors tu interviens sur les poteries, les poteries de la Madeleine, où là on reconnaît ton style, mais tu fais, j'ai vu des œuvres en volume un peu sur des formes géométriques un peu déstructurées, et là si on me dit pas que c'est toi, je le sais pas forcément au premier coup d'œil. Pourquoi une telle différence entre le travail sur toile ou sur mur et ce volume-là, qu'est-ce que...
Parce qu'en fait, moi, j'ai pas une recette dans mon travail. J'applique pas la même chose partout. Mm-hmm. L'idée, c'est même déjà pour moi, en tant que créateur, en tant qu'artiste, j'ai envie en fait d'explorer plein de choses différentes.
Yes.
Et ma peinture sur ma fresque, je vais pas appliquer la même chose sur du volume,
mm-hmm.
parce que ça n'a pas de sens en fait. Je travaille pas les mêmes supports, c'est pas le même cheminement de pensée. Donc en fait, j'adapte une certaine manière de penser à un support, voilà, que ce soit un vase, une sculpture ou autre.
Ok.
Donc pour moi, ça me paraît. Donc après, il y a quand même des choses qui se recroisent. Moi, je travaille, comme je disais, je travaille beaucoup les formes géométriques.
Ouais.
Et donc, il y a ça qu'on retrouve souvent de temps en temps dans mon travail. Il y a cette idée de perspective, de profondeur, de premier plan, second plan. Et ensuite, après, pour moi, je trouve ça intéressant d'aller un peu ailleurs, de me confronter aussi, de chercher une nouvelle manière de créer, de penser.
Et puis de sortir de ce que tu sais faire aussi, j'imagine, sortir sa zone de confort pour aller explorer des nouvelles choses. Et puis il y a une palette de couleurs aussi qu'on reconnaît chez toi, même si ce n'est pas toujours les mêmes, mais il y a quand même, il y en a certaines qui restent ou qu'on retrouve. Et cette palette-là, aujourd'hui, sur ta pratique, sur toile notamment, il me semble que tu fais de la peinture à l'huile aussi. On n'est plus trop sur cette même palette. Et moi, ça m'a toujours fascinée et intriguée comment un artiste arrive à travailler avec la même palette pendant si longtemps sans forcément se lasser. Et associer les couleurs, la composition, etc., sans se dire bon, j'en ai marre.
Mais en fait, je pense qu'on s'en lasse des fois.
Quand même.
Mais en fait, il y a des nuances de. Des fois, j'utilise beaucoup des verts, des bleus, des jaunes.
Ouais.
Mais c'est jamais obligatoirement le même vert, le même bleu, le même jaune. C'est des petites nuances. C'est vraiment très léger. Mais donc, du coup, j'arrive à travailler avec ça. J'essaye de temps en temps de rajouter une couleur un peu différente, voilà, qui va rajouter peut-être un peu plus de chaleur, des tons un peu plus froids, ça dépend. Et c'est vrai que dans mon travail d'atelier, déjà, le cheminement est totalement différent. Et je travaille à l'huile, et le fait de travailler à l'huile, du coup, je travaille beaucoup la matière, je travaille un peu plus la profondeur aussi, contrairement aux fresques qui sont réalisées à l'acrylique. Et du coup, ça me permet de raconter une histoire qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus intense, je trouve.
Okay.
Et je prends beaucoup plus mon temps, et du coup, je trouve que la palette est déjà beaucoup plus grande.
Ouais.
Et
puis, tu as le travail de la matière qui s'ajoute aux couleurs aussi.
Oui, il y a ça qui s'ajoute aux couleurs. Et aussi les transparences. Et en fait, j'ai vraiment envie de me raconter un peu plus à travers mon travail d'atelier. Et donc, du coup, c'est peut-être... on vient ouvrir des blessures, on vient...
parler de son passé.
Coup, en fait, la palette un peu assez vive que j'utilise dans les fresques, du coup, se retrouve beaucoup moins aussi dans mon travail d'atelier parce que je m'ouvre un peu plus.
Et parce qu'en plus, la peinture à l'huile, ça fait pas si longtemps que ça que
non,
tu la pratiques.
Non, ça fait 2-3 ans que...
Et c'est quelque chose que j'observe chez d'autres artistes qui passent aussi dans la pratique d'atelier de la peinture acrylique à la peinture à l'huile. C'est quoi, il y a un challenge en fait de se dire je vais réussir à peindre à l'huile?
Non, c'est que pour moi, il y avait une sorte de temps de précipitation avec l'acrylique, c'est-à-dire que d'accord. ça sèche très vite.
Okay.
Et tandis
donc
que la peinture à l'huile,
quoi.
Voilà, exactement. Okay. Et la peinture à l'huile, en fait, je prends beaucoup plus mon temps de réfléchir à un tableau, okay. de revenir sur des couleurs. Et il y a une profondeur qui est intense aussi dans le mélange des couleurs et tout.
Ouais, donc ça demande déjà, toi, en amont, une réflexion totalement différente
ouais,
à comment tu vas appréhender ta toile, en fait.
Exactement.
Parce qu'effectivement, tu peux pas... L'acrylique, ça sèche en deux, donc tu peux enchaîner.
Ouais.
La peinture à l'huile, ça demande, toi, une énergie différente et un temps, en fait, différent d'exécution, finalement.
Oui, exactement. Il y a un temps différent d'exécution. Même les pinceaux que j'utilise ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, j'adapte. En fait, j'ai vraiment revu ma manière de travailler à l'atelier quand je suis passé de l'acrylique à l'huile, quoi.
OK.
Ça a vraiment été... Ça a pris du temps avant que je trouve vraiment les,
ouais.
les bons pinceaux et les bonnes peintures que je voulais utiliser. La manière que je voulais aussi...
De peindre.
De peindre,
et
en
oui,
fait.
Bien sûr. Parce que du coup, ça, c'est un travail... Enfin, en autodidacte, j'ai envie de dire, c'est toi-même...
Ouais.
T'as pas regardé un tuto, quoi.
Non, mais non, j'ai pas regardé un tuto. J'ai demandé des conseils à des peintres à l'huile, différents médiums qu'ils utilisaient, tout ça, différentes techniques, et puis voilà.
Ok, et c'est venu comme ça.
Mais c'est pas venu comme ça, enfin, ça a pris beaucoup de temps.
Ça a pris du temps, mais je veux dire,
Il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de tableaux jetés, et en même temps, ça, c'est normal, on jette beaucoup plus que ce que l'on montre.
Toujours.
Voilà.
quels sont un petit peu les projets à venir pour cette année, pour 2025, si tu peux nous en parler?
Ben là, j'ai un projet avec Line Up, d'ailleurs, et
c'est
le mur de Pérol.
Le mur de Pérol, il me
exactement,
semble,
c'est ça.
Exactement, c'est ça, bientôt. Tu as fini, tu as fait une super fresque à la résidence Lavandin.
Exactement.
Avec nous, avec CDC Habitat, qui est très, très chouette.
Mmh, c'est vrai.
Et qu'on a montré sur nos réseaux. Mmh. Et effectivement, il y a le mur de Pérol pour... oui, effectivement, c'est pour bientôt, puisque
c'est
pour
bientôt,
mi-mars.
C'est en mars,
hein, donc,
exactement.
T'as déjà un peu une idée de ce que tu,
non,
que tu veux
pas
faire
encore. Je travaille souvent un peu au dernier moment, dans la précipitation, okay. comme ça, au moins l'inspiration.
Parce que là, en plus, ce format, je sais qu'il est particulier, ce format, le mur est pas très haut, il est très, très long.
Ouais, et il est long d'une voie rapide aussi. Et donc, du coup, les gens n'ont pas vraiment le temps de poser leur regard sur le
Toi, tu prends en
mur.
Compte
Je prends beaucoup en compte ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu toutes les fresques qui ont été réalisées avant. Et il y en a certaines qui marchaient beaucoup moins bien à cause de ça, parce qu'en fait, on est à 90 km/h, ça va très vite.
Oui, quand même.
Et donc, en fait, il faut aussi penser à tout ça, quoi. Donc, je reviens toujours à l'environnement.
Ouais,
tout ça.
J'avais pas pensé, c'est vrai que j'avais pas pensé au fait que... Bah, mais même moi, le peu de fois où je passe par là, je jette un coup d'œil, mais en même temps, tu peux pas trop, puisque t'as les yeux sur la route. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines où, bon, quand c'est quelque chose de très abstrait, tu apprécies dans la... de façon globale. Si c'est quelque chose de figuratif, ça demande quand même un coup d'œil un peu plus...
Ou de trop détaillé, par exemple, c'est un peu plus compliqué.
Donc, mur de Pérol,
voilà.
Il y a des choses après ?
Il y a un petit vase aussi que je dois réaliser, un grand vase d'ailleurs, plutôt. Un grand vase, ce sera pour le top 14 du rugby.
Wow.
Tout ça. Donc ça, c'est avec trop une agence parisienne. Je travaille beaucoup en fait avec des agences aussi qui sont basées à Paris. Donc ça, bon, j'en parle encore pas trop.
Ouais,
ça,
bien sûr.
Petit à petit, ça se fait. Des expositions aussi avec des galeries. Voilà.
Chouette.
Plusieurs petites
Plusieurs petites choses qui
plusieurs
se préparent.
Choses, exactement.
Il nous reste une minute de toute façon, donc ça va être la fin. Tu continues ta collaboration avec les poteries de la Madeleine?
Oui, toujours.
Parce que ça, en fait, tu t'en as fait pas mal.
Ouais, j'en ai fait. En fait, l'idée, c'est d'en faire une série par an, pas plus.
Ah, d'accord, ok.
Voilà.
Très bien.
Donc, j'en fais une vingtaine, et à chaque fois, en fait, il y a vraiment.
Ça part.
Et ça part, et tout se vend. Donc, c'est superbe, on est très contents. On a même des commandes de temps en temps. Donc, et c'est un très beau support. Très la céramique, j'adore.
Ouais, c'est chouette. C'est encore un autre support, un autre médium.
Et une autre vision aussi du travail.
Eh oui. Merci beaucoup Olivier d'être venu au micro de Terrain Vague et puis à bientôt pour un nouvel épisode.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.